Le défunt fondateur d'Apple, Steve Jobs, est considéré parmi les plus grands PDG de tous les temps. Son succès était dû en grande partie à sa recherche de la perfection. Découvrez comment Dieu veut que vous poursuiviez la perfection spirituelle, maintenant sur La Clé de David, avec Gérald Fleury.
Bonjour à tous. Au moment de sa mort en octobre 2012, Steve Jobs présidait la plus grande entreprise de la planète. Un rôle qui sort de l'ordinaire. Il était le dirigeant d'Apple, une réussite spectaculaire, et beaucoup de gens ont dit qu'il était le plus grand PDG de tous les temps. Et ils le disent encore. Mais sa qualité la plus importante était peut-être sa recherche de la perfection. Il recherchait la perfection. Il s'efforçait de créer des appareils parfaits, de lancer parfaitement ses produits ou de perfectionner les magasins Apple. Tout devait être aussi proche de la perfection que possible. Ce qui est inhabituel, son objectif était de créer le produit le plus parfait qui soit. Tel était son but. Voici une citation tirée d'un article que j'ai écrit intitulé « Steve Jobs et sa passion brûlante pour la perfection ». Grâce à sa technologie, Steve Jobs a révolutionné l'industrie de l'informatique, du cinéma, des téléphones portables, de la musique et a même changé le monde entier. Pourtant, il n'a jamais trouvé les réponses aux questions les plus fondamentales et les plus cruciales de la vie. Au cours de l'une de ses dernières conversations avec son biographe, M. Isaacson, Jobs a philosophé en disant qu'il aimerait croire que quelque chose de grand est réservé pour l'homme après sa mort. Mais, a-t-il ajouté, la vie est peut-être comme un interrupteur, ça clique et vous disparaissez. C'est une perspective plutôt négative et c'est vraiment pitoyable par rapport à ce que votre avenir vous réserve, si vous le comprenez. Alors, en 1983, Jobs cherchait un PDG pour diriger Apple et faire bouger les choses. Il passa quelques mois à essayer de convaincre John Sculley, le PDG de Pepsi-Cola, d'accepter le poste. Finalement, Jobs lui dit sans embâge « Voulez-vous passer le reste de votre vie à vendre de l'eau sucrée ? Ou bien voulez-vous avoir une chance de changer le monde ?» Il parlait de changer le monde, par le moyen de la technologie, bien sûr. Et c'est en effet ce que Jobs a fait et il a réussi de façon spectaculaire. Il a également dit à ses collègues « Nous sommes ici pour avoir un impact sur l'univers. » Pour avoir un impact sur l'univers, quelle ambition ! Or, votre objectif devrait être meilleur que ça. Et plus grand encore, d'un point de vue spirituel, nous devons penser à plus qu'à simplement avoir un impact sur l'univers. Dieu dit qu'il nous confiera le gouvernement de l'univers pour toujours. Je vous montrerai cela un peu plus tard. Donc, où en sommes-nous dans notre recherche de la perfection ? Visons-nous la perfection dans le mariage ou dans l'éducation des enfants ? À quel degré avons-nous atteint la perfection ? Vous et moi devons vraiment y réfléchir et il faut considérer cela dans le détail. Remarquez Matthieu 5, verset 48. Le Christ a dit « Soyez donc, ou devenez, faudrait-il lire, parfait comme votre Père céleste est parfait. » C'est un objectif ambitieux. Et c'est ce que Dieu désire à notre égard. Il souhaite que nous devenions parfaits comme lui. Lui et Jésus-Christ sont tous deux parfaits. Dans ce passage, le Christ nous exhorte à devenir parfaits comme le Père. Il est question ici du Père et du Fils, donc il s'agit de la famille de Dieu et d'amener les gens dans cette famille. Autrement dit, de naître dans cette famille. Donc, si nous voulons devenir parfaits, nous devrions nous tourner vers le Père. Nous proposons également un autre article, Parfait comme le Père, écrit par mon fils, et vous le trouverez utile. Tous nos ouvrages sont gratuits et il vous suffit d'en faire la demande. Cette écriture est très profonde et lorsqu'il est question d'atteindre la perfection, cela englobe en fait l'évangile de Dieu, lorsque l'on comprend ce qu'est l'évangile. Nous avons même des articles à ce sujet, à propos de ce qu'est l'évangile, qui vous seront également utiles. Pour l'homme, il s'agit en fait de devenir comme Dieu lui-même. Dieu se recrée lui-même. Cela signifie que nous atteindrons enfin la perfection et c'est si merveilleux qu'il est parfois difficile de le croire avant de vraiment étudier ce sujet. Dieu est à la recherche de la perfection. Je vais mentionner le plus grand défaut du peuple de Dieu aujourd'hui et nous avons une brochure à ce sujet intitulée « Le message de Malachie ». C'est un petit livre concernant la véritable Église de Dieu et comment elle a commis le plus grand péché. Dans Malachie 1, verset 6, cela dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Où est l'honneur qu'il faut me rendre? Eh bien, Dieu exige que nous l'honorions, il se recrée en nous, et il n'y a rien que Dieu puisse faire de plus grand que cela. Nous devons réfléchir à ces versets, parce qu'ils sont cruciaux, et nous devons être prêts à recevoir ce que Dieu cherche à nous enseigner. Or, il nous faut une certaine attitude, comme je vous le montrerai dans un instant, si nous voulons recevoir cette merveilleuse vérité. Quelques mois avant sa mort, Jobs parlait à Isaacson concernant le but de la vie. « Je suis à moitié convaincu de l'existence de Dieu », a-t-il dit. « Pendant la majorité de ma vie, j'ai eu le sentiment qu'il doit exister une dimension qui nous est inconnue. » N'est-ce pas triste? Cependant, il a très bien réussi dans ce monde, peut-être plus que n'importe qui d'autre, au moins dans le domaine de la technologie. À quel point recherchons-nous la perfection sur le plan spirituel? Tout dépend de cela. Tout. En 1974, Jobs s'envola pour l'Inde à la recherche d'un gourou qui lui montrerait d'une manière ou d'une autre quel serait le but de son existence. Il y avait un vide en lui, comme certains l'ont dit. Daniel Kotk, un ami de Jobs, s'est souvenu qu'à l'époque, il y avait un vide en lui qu'il essayait de combler. Pourtant, ce vide exista tout au long de sa vie. Remarquez cette prochaine citation. Le monde est en proie à une grande malédiction, mais il pourrait facilement la surmonter si seulement il obéissait à ce que Dieu dit. C'est aussi simple que cela. Jobs a dit à un moment donné, « Je pense que les diverses religions sont des portes différentes de la même maison. » Il l'a dit une fois, « Parfois je crois en l'existence de la maison, parfois non, c'est le grand mystère. » Eh bien, attendez, ce n'est pas vrai, cela ne devrait pas être un grand mystère. Et vous en trouverez l'explication dans notre livre « Le mystère des siècles ». C'est une vérité que vous pouvez prouver, et ce faisant, le vide dans votre vie sera éliminé. Vous n'avez qu'à ouvrir le livre, l'étudier et croire. C'est ce que ce livre fera pour vous. Je le sais car je l'ai fait. Et beaucoup d'autres l'ont fait aussi dans cette église. Il n'est pas nécessaire de vivre avec un vide. Vous n'avez pas été créé pour cela. Or, l'homme ne suit pas le chemin de Dieu. Il y avait deux arbres en Éden et ils ont choisi le mauvais arbre. Cela doit être rectifié. Le mystère des siècles est disponible gratuitement Monsieur Armstrong a dit que c'est le deuxième meilleur livre au monde après la Bible, et il a dit cela pour une bonne raison. Vous pouvez prouver que c'est le cas. C'est un résumé de toute la Bible. Il résume la Bible et, sous le titre du livre « Le mystère des siècles », vous pouvez lire ce qui suit. Vous êtes-vous jamais demandé « Qui suis-je ? Que suis-je ? Pourquoi suis-je ? » Vous êtes un mystère. Le monde autour de vous est un mystère. Il vous est maintenant possible de comprendre. L'auteur vous dit que vous pouvez vraiment comprendre, puis il énumère sept choses qui sont des mystères pour ce monde. Écoutez-les donc. Le premier, c'est l'identité et la nature de Dieu. Saviez-vous que c'est un mystère pour l'homme ? Nous parlons de Dieu en tant que personnage, mais nous ne le croyons pas. Nous ne lui obéissons pas. Le Christ a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Il faut faire ce que Dieu dit. » Le deuxième, c'est le mystère des anges et des esprits méchants. Ils ont tous été chassés des cieux et sont maintenant confinés sur terre. C'est pourquoi vous voyez tous ces effroyables fléaux sur terre. Mais combien de gens comprennent cela ? Très peu le comprennent. Le troisième mystère, selon ce livre, c'est le mystère de l'homme. Eh bien, nous avons besoin de comprendre pourquoi nous sommes ici. Qu'est-ce que l'homme ? Si nous ignorons cela, nous ne savons rien de fondamental concernant pourquoi nous sommes ici et ce que nous devrions faire. Nous devrions rechercher la perfection et avoir faim et soif de cela. C'est ce que nous devrions faire selon le Christ. Il y a également le mystère de la civilisation et le mystère d'Israël. La Bible est un livre sur Israël. Pourquoi est-ce le cas ? Pourquoi est-ce un mystère pour l'homme ? Les gens devraient comprendre cela, mais ils ne le comprennent pas. Puis le sixième chapitre ou le sixième mystère, c'est le mystère de l'Église. Nous avons besoin de savoir ce qu'est l'Église. Quelle est sa raison d'être ? Elle a une mission, à savoir transmettre un message au monde. Et elle doit nourrir le troupeau, le peuple de Dieu. Nous devrions comprendre ces choses afin qu'elles ne soient plus des mystères pour nous. Nous avons vraiment besoin de comprendre. Comprenez-vous qui est Dieu et quelle est sa nature ? La religion a-t-elle cette connaissance ? Non, elle ne comprend pas. Et la science, les scientifiques, comprennent-ils la nature de Dieu ? Non. Qu'en est-il de l'enseignement ? Cette connaissance est-elle dispensée dans les écoles ou dans les universités ? Ces établissements d'enseignement enseignent-ils ce qu'est l'homme ? Quel est le but de cette vie ? Pourquoi suis-je ici ? À quoi sert la vie, si nous ne savons pas pourquoi nous existons, ainsi nous n'allons nulle part spirituellement. Et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte. C'est un défi de taille auquel Dieu veut que nous réfléchissions, et si nous l'abordons avec un esprit ouvert, je vous assure que Dieu résoudra ce mystère. Ce ne sera plus un mystère, et c'est une chose à laquelle il faut penser. Regardez Matthieu 11, versets 23 à 25. Je ne vais pas les lire, mais le verset 25 dit que cette merveilleuse vérité n'est révélée qu'aux enfants. Matthieu 18, versets 1 à 3 dit que nous devons devenir comme des petits enfants et être enseignables. Ils sont curieux de la vie et veulent être enseignés, surtout s'ils ont été correctement formés pour faire ce qu'ils doivent faire. Dieu dit qu'il révélera cela aux humains. Il le fera. C'est ainsi que l'on peut changer le monde. les prémices, ceux qui sont appelés à la vérité de Dieu avant la seconde venue du Christ, qui se donnent à Dieu et qui font son œuvre, s'assiéront sur le trône de David avec le Christ. Ils régneront sur le monde et le transformeront. Pas seulement dans le domaine de la technologie, mais dans tous les domaines. Ce sera certainement le cas dans le domaine spirituel. Dieu veut que nous vivions spirituellement et que nous atteignions la perfection. La perfection, recherchez donc la perfection. Dans Matthieu 6, verset 33, cela dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour vivre, et même plus, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu. » La raison pour laquelle Dieu dit cela, c'est que si vous ne cherchez pas d'abord le royaume de Dieu, votre attention sera accaparée par toutes sortes de choses insignifiantes, et cela vous éloignera du royaume de Dieu. Et nous devons savoir ce qu'est ce royaume, c'est l'un des mystères. Et les gens ne savent même pas ce que c'est. Les gens s'éloignent de la vérité lorsqu'ils ne prêtent pas attention au royaume de Dieu et à la raison pour laquelle nous existons et comment nous pouvons entrer dans ce royaume, la famille de Dieu, pour toujours et à jamais. Et nous régnerons sur terre, puis sur l'univers. Quel avenir ! Nous devrions désirer transformer ce monde. Regardez autour de vous, il est évident que le monde a désespérément besoin de dirigeants qui savent comment le diriger. Aujourd'hui, les dirigeants mondiaux ne savent pas comment diriger leur pays. Et c'est un grave problème. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir un petit impact sur l'univers et sur la terre. Dieu veut que nous fassions bien plus que cela. Dans Ésaïe 51, verset 16, il est dit « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion « Tu es mon peuple ». Ceux qui se donnent à Dieu aujourd'hui régneront sur l'univers. Tel est notre avenir. » C'est pour cela que nous sommes ici. Et nous serons pleinement occupés dans l'univers. Ésaïe 35, versets 1 à 4, dit que le désert fleurira comme un narcisse. Et il y a actuellement beaucoup de déserts sur Terre. Il y a aussi toutes sortes de déserts dans l'univers, sur les planètes et ainsi de suite. Et Dieu dit que tout cela fleurira comme un narcisse. Et aujourd'hui, personne ne peut même déterminer où l'univers prend fin. C'est tellement impressionnant. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Quel avenir ! Quel avenir merveilleux ! Hébreux 2, verset 6 dit « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Puis le verset 8 d'Hébreu 2, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, toutes choses. » Une autre traduction dit qu'il s'agit de l'univers. « Toutes choses, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Nous n'en sommes pas encore là, mais tout sera bien sûr soumis à Dieu et sera dirigé par lui. Il s'agit de bien plus que d'avoir un petit impact sur l'univers. Nous allons le gouverner sous la direction du Père et du Fils. La famille Dieu. Dieu sera un père pour ses gens. C'est le père modèle. Et il désire que la famille soit dirigée par le père, tout comme c'est le cas avec Dieu le père. Et c'est une perfection qui dépasse tout ce qu'un être humain peut comprendre sans l'esprit de Dieu. et beaucoup de fils vont venir à la gloire, dit le verset 10, beaucoup de fils. Et dans Colossiens 3, versets 1 et 2, il est dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Levez les yeux !» Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est élevé. C'est pour cela que vous devez vous passionner de tout votre être. C'est ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas une fantaisie, c'est la seule vie qu'on puisse réellement qualifier de vie. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'une existence chimique. Dieu veut nous donner la véritable vie. Comment ne pas se montrer au moins enthousiaste pour cela? Nombreux sont ceux qui rejettent cela à leur propre détriment, c'est certain. Hébreux 12, versets 6 et 7 disent « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? De quoi Dieu parle-t-il ici ?» Eh bien, le verset 8 dit « Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Cela signifie tout simplement que le Père n'est pas là. Vous devez permettre à Dieu de vous châtier de temps en temps, tout comme un père doit guider son fils s'il l'aime. Et Dieu nous aime, et il dirige notre vie. » N'est-ce pas étonnant de voir tout ce que Dieu nous donne? C'est une chose à laquelle il faut vraiment réfléchir et penser. Puis le verset 9, « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? En d'autres termes, vous ne vivez pas si vous ne laissez pas le Père vous diriger. Ce n'est qu'à cette condition que l'on fait partie de la famille de Dieu. » Et quel avenir ce sera? Regardez autour de vous, l'éclatement de la famille déchire la société. La famille est le fondement d'un pays ou d'une civilisation. Il faut que la famille soit le fondement et qu'elle soit construite selon la direction de Dieu. 1 Jean 4, verset 19 dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Remarquez, c'est lui qui prend l'initiative. Il veut construire une relation avec vous. Il veut être votre père et le Christ veut être le chef de l'Église pour vous diriger en toutes choses, pour que vous ayez une vie heureuse et merveilleuse. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.